C'était il y a tout juste 150 ans, à Paris. Le 15 avril 1874, il est 20h. S'ouvre alors une exposition qui va changer le cours de l'histoire. Monet, Degas, Pissarro, Renoir, Cézanne, Berthe Morisot, ils sont tous réunis pour créer leur propre exposition à contre-courant des normes et des traditions de leur époque. Le mouvement impressionniste est né.
L'événement est suffisamment fort et les artistes si novateurs que nous nous devions de leur rendre visite. Bonjour et bienvenue dans cette 21e visite de la saison 7 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, première de deux visites aux impressionnistes dont le mouvement pictural bouleversa considérablement l'art de la fin du 19e siècle. Monet, Renoir, Manet, Pissarro, Degas, ce sont autant de regards sur leur temps, la modernité et la nature. Comme le dit ce court extrait d'une pastille de Art in the City, datée du 27 mars dernier, qui présente ce que nous réserve le musée d'Orsay pour cet anniversaire.
Ici, on ressent la vibration de la vie. Désormais, la vie, la vraie, avec ses fragilités, son caractère éphémère, ses sensations, ses joies et ses travers, trouve sa place.
Avant d'aller voir cette expo de 1874 de plus près, à deux pas de l'actuel Olympia, boulevard des Capucines, cette première partie sera une sorte de petite galerie de portraits sous forme d'esquisses. Pour cela, je vais me baser grandement sur le formidable docu-fiction réalisé par Hugues Nancy et Julien Johan.
J'ai toujours été indiscipliné. Et pendant ma jeunesse, passée au Havre, on n'a jamais pu me plier à une règle. Le collège me faisait même l'effet d'une prison, alors que le soleil était invitant et qu'il faisait bon courir sur les falaises au grand air.
À l'automne de sa vie, Claude Monet racontera l'histoire de cet adolescent avide de liberté et à l'esprit moqueur qui se découvre un talent précoce pour le dessin, au point d'être bientôt connu de toute la ville du Havre comme caricaturiste. Et c'est un peintre spécialiste du plein air et des études de ciel qui va alors changer le destin du jeune Claude Monet.
Un jour, Eugène Boudin me dit gentiment « Je les regarde toujours avec plaisir, vos croquis. C'est enlevé. Mais vous n'allez pas, j'espère, en rester là. »
Généralement, on connaît surtout Eugène Boudin pour ses marines, c'est-à-dire ses huiles ou pastels, souvent réalisées sur le terrain, en plein air, en bord de mer, par exemple autour de Honfleur, port où il est né, il y a pile 200 ans, en 1824.
L'homme me plaisait. Il était convaincu, sincère. Alors un jour, j'ai accepté de l'accompagner peindre en plein air.
Monsieur Boudin.
Bonjour Monet.
Je l'ai regardé, attentivement, en train de faire. Ce fut tout à coup comme un voile qui se déchire. La lumière avait jailli. J'avais compris. J'avais saisi ce que pouvait être la peinture.
Vous êtes doué ? Ça se voit tout de suite.
Boudin, avec une inépuisable bonté, entreprit alors mon éducation.
Faites du paysage et observez bien les colorations de la nature.
Mes yeux, à la longue, s'ouvrirent. Si je suis devenu peintre, c'est à Eugène Boudin que je le dois.
Boudin influence beaucoup Monet, mais pas seulement. La peinture académique ou officielle de l'époque, c'est surtout des grands formats aux sujets glorieux, comme la conquête de l'Algérie, les grands personnages de haute société, et pour ce qui est des références au passé, uniquement ce qui forge le sentiment patriotique, les mythes antiques et, pour ainsi dire, bien pensants. Rien de contemporain, sauf les natures mortes.
Et l'époque aime la peinture bourgeoise, les portraits solennels comme celui de l'empereur, les scènes d'histoire comme les tableaux de Jean-Léon Gérôme, qui sublime cette antiquité grecque pensée comme un âge d'or. Ou bien sûr les évocations mythologiques, comme cette Vénus à la chair de porcelaine d'Alexandre Cabanel, qui incarne parfaitement le goût de son temps.
En 1862, le père de Monet accepte finalement qu'il monte à Paris pour étudier la peinture, mais uniquement s'il suit les cours d'un maître respecté, donc tout sauf à contre-courant de ce qu'il faut faire.
Les étudiants en art qui rêvent de gloire n'ont donc pas d'autre choix que de s'inscrire dans les ateliers privés, ouverts par nombre de ses maîtres reconnus, à l'instar de celui de Charles Glaire, qu'a rejoint Claude Monet en 1862.
Chut, chut, les gars, attention, voilà le patron. Revue des troupes. Bonne chance à tous les camarades. Un ami de mon père m'avait dit « Monsieur Glaire, c'est le maître rassis et sage qu'il vous faut. » Je le revois encore s'approcher de ma toile et ensuite me dire « C'est très bien, ça, jeune homme. »
Très bien, ça, jeune homme.
Seulement...
Seulement, c'est trop dans le caractère du modèle. Et vous avez devant vous un homme trapu, avec de gros pieds, et vous lui faites des gros pieds.
Mais je ne peux dessiner que ce que je vois.
La nature, mon ami, c'est très bien comme élément d'étude, mais ça n'offre pas d'intérêt. Le style, il n'y a que ça.
Tout ce qui provoquait en moi l'émotion, la nature, la vérité, ne semblait pas exister pour cet homme.
Il faut toujours penser à l'antique.
J'étais déconcerté. Mais j'avais trouvé à l'atelier des compagnons qui me plaisaient. C'était Alfred Sisley et Pierre-Auguste Renoir.
Non mais dites-moi, jeune homme, c'est à se demander ce que vous faites dans mon cours. C'est sans doute pour vous amuser que vous faites de la peinture.
Mais absolument. Si cela ne m'amusait pas, je vous prie de croire que je n'en ferai pas.
Les hasards du destin viennent de réunir dans le même atelier
fin du cours.
Claude Monet avec Pierre-Auguste Renoir, le plus modeste et le plus joyeux d'entre tous, qui a abandonné son travail de décoration sur porcelaine pour se plonger à corps perdu dans la peinture. Et avec Alfred Sisley, un jeune Britannique installé en France avec sa famille aisée.
Auguste Renoir a travaillé la porcelaine. Normal, il est né à Limoges. Il eut plusieurs enfants avec l'un des modèles qu'il épousa. Parmi eux, Jean. Jean devint l'un des plus grands cinéastes de sa génération et Auguste fit de ses enfants un thème de prédilection. Bien plus tard, Jean Français, né au Mans en 1912, composa une série de 15 portraits d'enfants de Jean Renoir, ici par l'orchestre de chambre de Toulouse dirigé par Alain Moglia.
Et c'est le timide Frédéric Bazille qui va jouer un rôle essentiel dans l'aventure picturale qui s'annonce. Bazille, ou l'étoile filante de la révolution impressionniste. Lui qui sera fauché en pleine ascension.
Alors que tous ses proches et amis tentèrent de l'en dissuader, il s'engagea dans l'armée pour combattre les Prussiens en 1870. Il fut fauché comme tant d'autres. Il avait 28 ans. Par ailleurs, plutôt riche et généreux, il aida souvent ses amis peintres à ne pas tomber dans la misère.
L'étudiant Frédéric Bazille était venu à Paris pour faire des études de médecine à la demande de son père, propriétaire terrien dans le Languedoc. Mais Bazille ne rêve en réalité que de dessin et de peinture, comme il l'avoue à ses parents, lettre après lettre.
Mon cher père, tu me croiras difficilement, mais je t'assure que je me suis mis au dessin avec acharnement. Je prends de plus en plus de goût à mes travaux de peinture, qui feront sinon l'honneur, au moins le bonheur de ma vie. Pourtant, j'ai encore énormément à faire pour dessiner convenablement. Le temps admirable que nous avons depuis quelques jours m'a fait former un petit projet que tu ne désapprouveras pas, je l'espère. Je vais passer la semaine prochaine dans la forêt de Fontainebleau avec deux ou trois camarades de l'atelier.
La généralisation du chemin de fer, à partir de 1837, a transformé les paysages comme les habitudes. Et notamment celles des peintres, qui ont pu sortir de leurs ateliers. La ligne Paris-Melun permet de rejoindre beaucoup plus rapidement la forêt de Fontainebleau et le petit village de Barbizon tout proche, qui sont devenus des destinations prisées par de nombreux artistes.
Comme Corot ou Millet, connu pour son Angélus.
Allez, venez les amis là!
Monet, qui a soif de liberté, a emmené ses amis sur les traces de ses peintres de Barbizon.
T'es encore loin ? Oh, le rabat-joie !
Adepte comme lui des esquisses en plein air.
Profite, Renoir ! C'est impressionnant. Je me demande bien ce que dirait Glaire face à ces arbres majestueux.
La nature, ça n'a aucun intérêt.
L'antique, la vérité.
Ma chère mère, la forêt est vraiment admirable dans certaines parties. Nous tâchons de faire quelques études d'arbres. Mon ami Monet est assez fort en paysage. Il nous donne des conseils qui nous aident beaucoup.
Le jury du salon est assez vache, ce qui n'est pas assez académique et rejeté. Alors...
Face à la colère créée par l'intransigeance du jury, qui a refusé une majorité de tableaux, l'empereur Napoléon III a été obligé d'organiser un salon des refusés dans une annexe du palais de l'Industrie.
À ce que j'ai compris, il devait se situer vers le bas des Champs-Élysées et ressembler à un énorme hangar, plus gros que l'actuel Grand Palais.
Plus de 1500 œuvres rejetées par le jury ont ainsi pu être montrées. Et il y en a notamment une dont tout le monde parle, tant elle a déclenché le scandale parmi les visiteurs.
Au fait, vous avez vu le bain ?
Bien sûr.
J'ai été fasciné par ce tableau. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Vous avez vu comment il s'est libéré des règles de la perspective ?
Ouais. Avec des peintres comme lui, les choses vont bouger, c'est sûr.
Espérons.
Avec le bain, qu'il appellera plus tard le déjeuner sur l'herbe, le peintre Édouard Manet a cassé les codes de la peinture classique. Ce qui dérange surtout, c'est cette femme nue, représentée au milieu d'hommes de l'époque. Ici, pas de prétexte mythologique ni d'idéalisation de la femme, mais une scène crue et donc choquante pour les visiteurs. Les critiques dénonceront un sacrilège.
Nous ne pouvons trouver que ce soit une œuvre parfaitement chaste, que de faire asseoir sous bois, entourée d'étudiants en béret, une fille vêtue seulement de l'ombre des feuilles.
Je ne sais pas où va M. Manet, et je ne crois pas me tromper, en supposant qu'il ne le sait pas trop lui-même.
Fils d'un haut fonctionnaire de l'État, Manet a été élevé dans le respect des grands maîtres, et il admire les peintres de la Renaissance italienne comme ceux de l'école espagnole. Mais ce que cherche Manet dans tous ses tableaux, c'est puiser chez ses maîtres, les inscrire dans l'époque contemporaine. Peindre la société telle qu'elle est. Voilà l'obsession que le peintre partage avec son ami, le poète Charles Baudelaire, le chantre de la vie moderne, qui soutient Manet depuis ses débuts.
Après le déjeuner sur l'herbe, Manet se met à l'Olympia, influencé par le peintre Goya.
Un sujet classique de la peinture, mais que Manet va transposer dans la société bourgeoise du Second Empire.
La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores. C'est de mon ami Baudelaire, ma chère.
Le modèle de Manet est Victorine Meurent, une femme aux amours libres, dont il aime la puissance du regard comme l'indépendance, et qu'il a déjà peinte à plusieurs reprises, notamment dans le bain.
Victorine, voulez-vous être ma Vénus ? Mais une Vénus moderne. Une Vénus de la rue et des bordels. Ça, c'est de moi.
Vénus s'appellera Olympia. Une représentation d'aujourd'hui. Celle d'une prostituée qui attend avec insolence ses visiteurs masculins, accompagnée de sa servante noire, dont le modèle, prénommé Laure, apparaît sur plusieurs tableaux de l'artiste. Édouard Manet est en train de montrer la voie à tous ces peintres qui rêvent eux aussi de se libérer de cet académisme étouffant. Et parmi ces peintres, il y a notamment une femme qui rêve de mener une carrière artistique, ce qui est presque impossible dans la France du Second Empire.
Car voyez-vous, le statut d'une femme à l'époque est loin, très loin de celui d'une femme d'aujourd'hui, c'est dire. Ainsi, option 1, la plus simple, se marier avec le meilleur parti possible, tant qu'à faire, mais ta passion passera au second plan.
Mère, croyez-vous que cette toile pourrait être prise au salon ? Je pourrais peut-être en profiter pour essayer de vendre mes œuvres.
Berthe Morisot, ou le long combat d'une femme pour exister. Comme nombre de jeunes filles de bonne famille, Morisot a suivi des cours de dessin sous la tutelle d'un professeur réputé. À 18 ans, l'élève particulièrement doué peint cette ferme en Normandie. Puis l'année suivante, elle copie les classiques au Louvre. C'est un véritable talent qui est en train d'éclore. Et à 23 ans, un de ses tableaux est même accepté par le jury du salon. Tout à coup, Berthe Morisot entrevoit la possibilité d'embrasser une carrière de peintre. Ce qui ne peut qu'inquiéter sa famille, alertée par le professeur de leur fille.
Vous rendez-vous compte de ce que cela veut dire de devenir peintre ? Dans le milieu de la grande bourgeoisie qui est le vôtre, ce sera une révolution. Je dirais presque une catastrophe.
C'est la réputation de Berthe Morisot qui est maintenant en jeu, tant il est inconcevable pour une femme de son milieu de faire ce choix radical.
Mon bijou, tu as beaucoup de talent, mais de là à en faire ton métier. Tu sais bien qu'il vaut mieux se marier pour avoir une situation.
Option 2, tenter de gagner sa vie avec sa passion et par son talent et par son nom. Et là, c'est non seulement galère, mais en plus t'es mal vu, très mal vu. Donc...
Je dois montrer à tout le monde que je compte bien m'émanciper et que je n'ai pas besoin d'un mari pour cela. Je n'obtiendrai mon indépendance qu'avec beaucoup de persévérance.
En avril 1865, l'exposition annuelle des Beaux-Arts ouvre ses portes dans l'immense palais de l'industrie situé sur les Champs-Élysées. Comme chaque année, c'est là, dans les impressionnantes galeries, que va se jouer le succès, et même la carrière, des heureux élus choisis par le jury. Le verdict du jury, c'est ce catalogue officiel où les peintres retenus voient leur nom inscrit en toutes lettres. Comme Berthe Morisot, sélectionnée une fois encore avec son étude au bord de l'eau, ce qui ne peut que la conforter dans sa décision. Le salon, pour tous les artistes exposés, c'est la chance unique de montrer son travail là où le tout Paris aime se faire voir pendant plusieurs semaines. Car le public se presse en nombre à cette grand-messe de l'art contemporain, qu'Honoré Daumier, un des caricaturistes les plus célèbres de l'époque, n'hésite pas à moquer dans la presse satirique. On aime être étonné, choqué, puis rassuré par les peintures de facture classique qui emporteront tous les suffrages.
Sacha Guitry à la radio Pétainiste en 44.
Lorsqu'en 1923, le ministre des Beaux-Arts enfin vint à Giverny demander à Claude Monet une toile de lui pour le musée du Louvre, Monet répondit « Oui, mais je veux la choisir moi-même ». Le ministre y consentit bien volontiers et Monet désigna le déjeuner sur l'herbe. « Mais mon cher maître, lui dit le ministre, puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi celle-ci plutôt qu'une autre ?»« J'ai choisi celle-ci, monsieur le ministre, lui répondit Monet, parce qu'elle m'a été refusée au salon de 1887. »
Mais ce que les artistes craignent par-dessus tout et qu'ils saluent avec déférence, ce sont les critiques d'art qui peuvent faire et surtout défaire les réputations. C'est ce qu'Édouard Manet doit affronter avec son Olympia, accepté par ce même jury de 1865, mais étrillé par la critique.
La toile de M. Manet, cet odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé on ne sait où, a la prétention de représenter Olympia. Mais quelle Olympia ? Une courtisane sans doute.
Mais les critiques peuvent aussi encenser un jeune peintre inconnu, comme Claude Monet. Retenu pour la première fois avec deux marines, dont la très remarquée embouchure de la Seine à Honfleur, qui lui permet, au contraire de Manet, d'avoir immédiatement les honneurs de la presse.
Monet, l'auteur de la marine la plus originale et la plus souple, la plus solidement et la plus harmonieusement peinte qu'on ait exposée depuis longtemps. Monsieur Monet, inconnu hier, s'est fait d'emblée une réputation par ce seul tableau.
En frappant un grand coup dès son premier essai, Claude Monet vient de donner de l'espoir à tous ses camarades de l'atelier Glaire.
Baudelaire, comme son ami Théophile Gautier, avait commencé en critique d'art. 25 ans après, un jeune journaliste se fait un nom de la même manière, Émile Zola.
Et un brillant journaliste de 26 ans, Émile Zola, va même voir dans cet événement les prémices d'une révolution.
Je venais de parcourir ces salles si froides et si vides, là de ne rencontrer aucun talent nouveau. Lorsque j'ai aperçu cette jeune femme, traînant sa longue robe et s'enfonçant dans le mur, comme s'il y avait eu un trou. J'avoue que la Camille de M. Monet est la toile qui m'a le plus longtemps arrêté au salon. C'est là une peinture énergique et vivante. Vous ne sauriez croire combien il est bon d'admirer un peu, lorsqu'on est fatigué de rire et de hausser les épaules. Monsieur Pissarro est un inconnu, dont personne ne parlera sans doute. je me fais un devoir de lui serrer vigoureusement la main avant de partir. Merci, monsieur. Votre paysage d'hiver m'a reposé une bonne demi-heure lors de mon voyage dans le grand désert du salon. Une peinture austère et grave, un souci extrême de la vérité et de la justesse. Pourquoi diable avez-vous l'insigne maladresse de peindre solidement et d'étudier franchement la nature ? Oui, vous êtes un grand maladroit, monsieur. Vous êtes un artiste que j'aime.
Pissarro est un des premiers à réaliser ses toiles essentiellement en plein air, plutôt qu'en atelier à partir d'esquisses, revenant chaque jour au même endroit pour poursuivre, améliorer et terminer sa peinture. Camille Pissarro est née dans une famille de confession juive, installée dans les Antilles danoises.
Petit archipel à l'est de Porto Rico.
Au nom de sa passion pour la peinture et par goût pour la liberté, il va rompre avec le milieu bourgeois de sa famille, au point d'adopter les idées anarchistes et de tomber amoureux de la domestique catholique de ses parents, Julie Velay, avec qui il aura 8 enfants. Installé avec Julie à Paris, puis un peu plus au nord, à Pontoise, Pissarro va devenir le compagnon de route de cette nouvelle école picturale en train de naître et qu'il ne trahira jamais. Lui que l'on appellera même le patriarche des impressionnistes.
Toujours avec sa grande barbe assez tôt grisonnante.
Lorsque je commence un tableau, je ne vois que des taches. La première chose que je cherche à fixer, c'est l'accord entre le ciel et le terrain.
Dans cette galerie de portraits, il nous en reste un à esquisser pour aujourd'hui.
Degas est le fils d'un banquier d'origine italienne, installé à Paris dans le quartier artistique du 9e arrondissement. Pour ce passionné de peinture, le dessin classique semblait la seule voie possible. Alors il s'est d'abord consacré aux grands maîtres qu'il copie dans les salles du Louvre. Et notamment les œuvres de Nicolas Poussin.
Grand peintre à la fois lumineux et classique, lui aussi né en Normandie, décidément, qui fit surtout carrière à Rome entre 1624 et 1665.
Mais au plus profond de lui-même, Edgar Degas n'est pas satisfait. Et c'est lors d'un voyage en Italie que le déclic va se produire.
Cher ami, je suis tout occupé à un portrait de ma tante et de mes deux petites cousines. L'aînée est réellement une petite beauté. La cadette a de l'esprit, comme un démon, et de la bonté, comme un petit ange. Je l'ai fait avec leur robe noire et de petits tabliers blancs qui leur vont à ravir. Je voudrais une certaine grâce naturelle, avec une noblesse que je ne sais comment qualifier. Il faut une grande patience dans le dur chemin où je me suis engagé. Cependant, je ne veux pas lâcher avant un résultat.
Après de nombreux croquis préparatoires, Degas réalise à son retour dans son atelier parisien une toile monumentale. Toute la puissance du peintre surgit dans cette œuvre à l'apparence classique. Dans un format habituellement réservé aux tableaux d'histoire, c'est une scène domestique que Degas a choisi de représenter. Une mésentente conjugale qui enferme une femme encore jeune dans son foyer, avec ses deux petites filles. La lassitude et l'amertume percent dans les visages immobiles, faisant ressentir les sentiments contrariés des époux.
La femme toute de noir sobre vêtue ajoute l'idée d'un deuil. Ce qui rapproche chacun de ces peintres, c'est donc non seulement la lumière de la nature comme modernité, mais aussi le regard qu'ils portent sur leurs contemporains. La vie à peindre n'est plus celle de l'histoire ou des mythes, ou celle d'une nature faite de symboles ou de vanités mortes. Non, les tableaux à accrocher au mur sont des miroirs plus vrais que le réel et plus crus que l'allégorie.
Et Zola, de commencer à théoriser à travers la peinture ce qu'il appliquera à la littérature et qu'il appellera naturalisme. Cette volonté de raconter le réel dans tous ses aspects, même les plus crus et les plus violents, en se fondant avant tout sur l'observation de ses contemporains.
Ainsi va se clore cette première visite aux impressionnistes du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site radioalpa.com et surtout apprécier le docu-fiction 1874, la naissance de l'impressionnisme sur arte.tv. Mais nous ne quittons pas sans musique et sans une jolie chanson signée Yves Duteil, dénichée à l'occasion sur l'album Ton Absence, sorti en 87. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, restez persuadés que le regard sait accueillir toute la lumière naturelle du monde.
Il y avait au jardin des bouquets de lumière. Le soleil traversait les couleurs du sous-bois. Au bord du bel étang, un pêcheur solitaire s'endormait doucement, sa canne entre les bras. C'était un jour d'été léger comme un dimanche. L'air était transparent sous le feuillage clair. Le bonheur était là, paisible entre les branches et les reflets mouvants des arbres et des fougères. Le soleil inondait le bord de la rivière. Les couples enlacés dansaient sur le ponton, près des tables encombrées de bouteilles et de verres. Des guirlandes accrochées croulaient sous les balcons. Une femme debout regardait quelque chose, une lueur magique au fond de son regard. Son bras disparaissait sous un bouquet de roses. Elle était appuyée sur un divan bizarre. C'était au grand palais, sur des toiles de maître. Il y avait un Monet et deux ou trois Renoirs. Le cœur dans les tableaux, je me sentais renaître. Et en fermant les yeux, je pouvais les revoir. Le monde a la beauté du regard qu'on y pose. Le jardin de Monet, le soleil de Renoir ne sont que le reflet de leur vision des choses, dont chacun d'entre nous peut être le miroir. La vie nous peint les jours au hasard du voyage, en amour, en douleur ou en mélancolie. C'est un peu de ce temps qu'on laisse en héritage, enrichi du regard qu'on a posé sur lui.